La France Bouge se poursuit avec vous, Raphaël Duchemin, et avec la solution du jour d'Elisabeth Assayag, une solution intelligente pour préparer les enfants à la nouvelle technologie.
Eh oui, pour apprendre le codage, figurez-vous, à des enfants dès l'âge de 3 ans, c'est possible grâce à Colori. Elisabeth, c'est donc la solution.
Oui, Colori, c'est une méthode d'apprentissage du codage. Le codage, c'est la programmation informatique. Pour faire simple, c'est parler à son ordinateur dans sa propre langue d'ordinateur afin d'exécuter un programme. Les fondatrices de Colori sont parties du principe que 40% des métiers d'aujourd'hui auront disparu dans 10 ans. Et les enfants âgés de 0 à 6 ans ont cette capacité, hein, ce cerveau disponible pour apprendre des tas de nouvelles choses pendant cette période. Alors pourquoi ne pas initier nos enfants dès le plus jeune âge à s'adapter à un autre environnement en leur apprenant un mode de pensée logique? Et c'est ce que vous avez fait. Bonjour Perrine Le Gall.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la cofondatrice de Colori. Alors comment ça vous est venu cette idée de Colori?
Alors Colori, c'est avant tout une belle rencontre. J'étais à l'époque experte dans le digital dans une grande entreprise et je m'interrogeais sur la place grandissante du numérique dans nos métiers, mais aussi à la maison. Alors forcément, quand je suis devenue maman, je me suis interrogée sur comment élever ma fille pour lui permettre de grandir dans un monde qui, au final, est de moins en moins adapté aux tout petits. L'exemple le plus flagrant, ce sont les écrans. Je vous invite à lire un article qui est paru dans le Figaro ce matin à ce sujet. Les écrans sont à proscrire chez les petits, sauf qu'on va pas se leurrer. Nous, adultes, on les utilise beaucoup. Il y en a plein à la maison. Alors, comment on fait?
Et donc Colori est né.
Alors oui, c'est comme ça que j'ai rencontré Amélie Matard qui avait cette solution extraordinaire qui sont des activités d'initiation pour les enfants à destination des parents et des éducateurs qui sont ludiques et qui sont absolument sans écran, spécialement pour les 3-6 ans.
Donc c'est une méthode, hein, c'est pas une école de codage pour les enfants, c'est une méthode que vous proposez à différents établissements scolaires. Ça marche comment?
Alors oui, tout à fait, c'est effectivement une part très importante. C'est une pédagogie qu'on met en place. Donc ce sont des activités qui vont capitaliser essentiellement sur ce qui est important pour un enfant à cet âge-là, à savoir la manipulation, la logique, le repérage dans l'espace, l'imagination. Et on souhaite vraiment le diffuser au maximum, notamment au travers de la formation, parce qu'on estime qu'en allant à la rencontre des enfants plutôt qu'en les faisant venir chez nous, ça nous permettra de nous adresser à un maximum d'enfants et leur permettre de tous partir avec les mêmes chances dans la vie et de tous partir avec le même niveau d'information et peut-être, qui sait, combler le manque de profils féminins et issus de milieux défavorisés dans les métiers du numérique demain.
Jean-Christophe ?
Oui, alors comment ça se passe? Vous allez voir une école, vous rencontrez les instituteurs. Comment vous arrivez? Parce que l'éducation nationale, parfois, peut-être à tort, mais c'est un peu fermé. Quand vous arrivez à ouvrir la porte?
Est-ce qu'on peut entrer avec des nouvelles matières comme
voilà,
ça, quoi?
Comme ça, voilà. Il y a des programmes. Comment vous faites par rapport aux programmes existants?
Alors, vous avez tout à fait raison. On travaille majoritairement avec les collectivités, avec les mairies. Et c'est de cette manière-là qu'on rentre, entre guillemets, à l'école. Aujourd'hui, il y a 1,2 million d'enfants qui vont en centre de loisirs. Donc, on travaille essentiellement au centre de loisirs. Donc, soit par le biais, effectivement, de la formation des éducateurs, soit en nous déplaçant nous-mêmes avec nos animateurs qui animent des ateliers directement chez nous.
Donc, ça devient une activité extrascolaire.
Tout à fait.
C'est pas dans le cadre de l'école.
Alors, notre souhait, et que ça rentre dans le cadre de l'école, on forme des instituteurs qui viennent chez nous se former de manière volontaire et qui ensuite utilisent Colori dans leur classe. Donc ça se fait effectivement déjà. Et nous, notre souhait, c'est d'aller de plus en plus vers ça. Et par le biais, par exemple, de notre travail en centre de loisirs avec la ville de Pantin, cette année, on rentre également sur le temps scolaire. Donc on fait du Colori sur le temps périscolaire. Et la ville de Pantin, nous faisant confiance, nous permet aussi de rentrer en classe dans certaines de leurs écoles cette année.
J'ai à la main un grand quadrillage renseigné pour Mosaïque. Qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai une suite de 0, de 1. Voilà, ça a une signification.
Tout à fait. Alors, comme je vous l'expliquais, donc ce sont des activités sans écran qui permettent de comprendre comment fonctionne le numérique. Ça, typiquement, ça permet aux enfants de comprendre comment fonctionnent les écrans grâce au système binaire. Le système binaire est une suite de 0 et de 1. Et en proposant aux enfants de discriminer les 1 sur cette petite plaquette, on fait apparaître un dessin. Vous avez l'exemple, la correction à côté.
C'est juste là.
Voilà. Ce qui leur permet de comprendre comment fonctionnent les pixels qu'on voit plus du tout aujourd'hui sur les écrans. Et ainsi, ils comprennent comment fonctionnent les écrans qu'ils ont, que leurs parents ont à la maison, par exemple.
Vous avez déjà des retours, des résultats par rapport à ce que vous enseignez, par rapport à vos formations? C'est les tout-petits.
Alors oui, Ça se passe très bien avec les enfants qui adhèrent beaucoup pour une raison simple déjà, c'est qu'entre 3 et 6 ans, il y a très peu de choses qui sont proposées aux enfants, notamment dans le cadre du périscolaire. Donc ils sont hyper contents qu'on leur propose des activités. Ce sont des activités qui sont ludiques, qui sont toujours très esthétiques et qui fonctionnent de manière autonome. Donc les enfants sont très contents de pouvoir réussir par eux-mêmes aussi à faire leur activité. Et au-delà, donc sur tout ce qui concerne la robotique, la technologie, etc., c'est des notions qu'ils connaissent. Donc quand on va leur parler de robots, ceux qu'on leur présente, souvent, ils les connaissent déjà. Donc ils sont très avides de savoir comment ça fonctionne. Et on leur propose aussi notamment de programmer un petit robot qui s'appelle Cubetto. Et ça, ils adorent parce qu'ils comprennent au final comment ça fonctionne. Idée qu'ils n'avaient pas du tout au préalable. Et j'ajouterai juste un petit point, il y a une dimension philosophique qui est primordiale chez Colori. C'est qu'on va apprendre aux enfants que le robot est un objet, c'est une machine, et que si on ne lui donne pas des instructions précises, il ne se passera rien. Ce qui n'est pas du tout évident pour un enfant de 4 ans qui arrive dans un atelier Colori et qui va dire au robot « avance, recule, va à droite ». Quand on lui explique qu'un robot est un objet, il va pouvoir, de cette manière-là, prendre un recul qui est très important.
Dommage que ça s'arrête à 6 ans.
Ah, pour l'instant, on verra peut-être un jour.
Bon, bon. Bah, revenez-nous le dire alors.
Ça s'appelle Colori, merci d'être venu nous parler de cette solution pour nos enfants à partir de 3 ans, le codage sans écran.
Il est midi 57.
Europe 1.
Et on vous retrouve dans une dizaine de minutes, mais dès maintenant, vous pouvez nous appeler pour nous parler du lien que vous entretenez, tiens, avec votre portable. Savez-vous lâcher prise? Et si vous êtes fan d'innovation, vous pouvez nous appeler aussi 3921 et Twitter. C'est la France qui bouge. À tout de suite.
Europe 1, midi 14h, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Bienvenue dans La France bouge. Ici, vous le savez, on essaie d'être à l'écoute des mouvements de la société. Et s'il y en a des mouvements qui se sont propagés cette année, ils se sont propagés notamment autour de tout ce qui est informatique, téléphonie. On est de plus en plus connectés. On a tous dans nos poches, dans notre sac aujourd'hui, un smartphone. On aurait pu vous dire, on va vous donner des idées pour apprendre à vous en passer peut-être, hein, mais non, on a plutôt choisi de vous montrer combien aujourd'hui en France on sait innover. Bonjour Timothée Lequen.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur d'Energy Square et vous avez créé un chargeur sans fil par conduction. Alors, bon, j'entends déjà des gens se dire « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est? Comment il fait ?» Si j'ai bien compris, vous avez, en tout cas au départ, mis au point une sorte de rectangle qui est bardé d'électrodes et qui sert de base de recharge. Si je schématise, c'est un peu ça ?
Tout à fait. Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler de charge sans fil pour les smartphones, et vous qui nous écoutez dans votre voiture êtes peut-être en train de l'utiliser. Donc aujourd'hui, la charge sans fil, ça se présente sous la forme d'un petit galet qu'on branche sur secteur et sur lequel on vient poser son smartphone, ceux qui sont équipés tout du moins, pour les recharger. Et aujourd'hui, les technologies de charge sans fil présentes sur le marché, donc dans votre smartphone actuellement, ont plusieurs limites, et ce pourquoi elles n'ont pas été adoptées de façon très répandue par le grand public. Et ces limites sont qu'aujourd'hui, vous devez positionner votre smartphone très précisément au-dessus d'un point pour le recharger. Donc, quelques millimètres à gauche, à droite, ça va plus le recharger. Et si vous dormez, vous le chargez en même temps. Le lendemain, vous êtes à 0%. Donc, c'est compliqué pour commencer la journée. Ça va charger beaucoup moins vite qu'un chargeur filaire. Et puis, on a énormément de pertes d'énergie, un peu plus de 30%. Et en 2019, on ne peut pas se permettre de perdre 30% d'énergie à chaque fois qu'on va charger son smartphone.
Donc vous avez commencé à réfléchir à une solution qui permette de ne plus avoir le fil, mais quand même de recharger au maximum de ses capacités.
C'est exactement ça.
On est en 2014 quand on vous demande au sein d'Euratech, avec Daniel qui est votre cofondateur, de commencer à réfléchir aux énergies du futur.
Voilà, donc on était étudiant à Télécom Paris Tech et on voit que dans nos usages des appareils, ils passent un certain temps posé sur les surfaces qui nous entourent.
Ouais,
et on
là,
se dit,
par exemple,
c'est bête de ne pas les recharger pendant ce temps-là. Et la charge par induction qui existe aujourd'hui n'est pas capable de recharger sur une surface entière.
Donc vous êtes en train de me dire que le téléphone que j'ai à la main, je peux le poser sur mon bureau. Si j'ai le fameux rectangle dont on était en train de parler, mon téléphone va se charger.
Tout à fait. Donc c'est la technologie qu'on a développée, qui s'appelle Power by Contact, et qui va permettre de charger sur une surface entière, donc sur un tapis de charge un petit peu. Vous le pouvez sonner n'importe où, tant qu'il est équipé, ça va le recharger. Et ça va le charger à la même vitesse qu'en filaire, et puis sans perte d'énergie, avec la même efficacité qu'un câble. Et donc, pour l'utiliser sur votre smartphone, soit vous l'adaptez avec une coque spécifique ou un petit accessoire, ou soit, et c'est notre métier chez Energy Square, on est en train de discuter avec les grands fabricants de smartphones, mais aussi d'ordinateurs portables, par exemple, pour intégrer la technologie en natif dans les appareils.
Oui, parce que vous avez commencé par développer ça et puis vous vous êtes aperçu qu'effectivement, ce n'était pas forcément le bon modèle. Hein. Vous avez changé de stratégie entre-temps.
Voilà, on a créé un premier produit en 2016 qui était une tablette de charge qui pouvait charger 4 smartphones simultanément. Donc, on en a vendu un certain nombre. Et ensuite, nous, notre ambition, ce n'est pas de faire un accessoire dans notre coin, c'est de devenir un standard de charge mondial. Et donc, pour ça, on est obligé de travailler avec les grands acteurs, donc tous ceux qui fabriquent des smartphones ou des ordinateurs portables, pour qu'ils intègrent la technologie en natif. Et donc, on aura des très bonnes nouvelles à annoncer dans ce sens-là, pour créer un standard de charge français dans les années qui viennent.
Parce que ça veut dire qu'il faut que les smartphones en soient équipés et que la table de mon bureau en soit équipée également, par exemple, mon plan de travail dans la cuisine ou ma table basse le soit aussi.
Exactement. Et c'est pour ça que pour l'instant, on travaille, vous en avez parlé, avec des bureaux, des espaces de travail, où aujourd'hui, il y a tout un tas de câbles sur le bureau. Voilà. Oui. On branche toujours son chargeur, son ordinateur portable. Et donc, on travaille avec à la fois des fabricants d'ordinateurs portables et de smartphones pour qu'ils intègrent notre technologie en natif. Et puis, avec des fabricants de meubles pour qu'ils intègrent notre technologie directement dans le mobilier.
Que dit notre coach ?
Je suis impressionné parce que... toute petite entreprise, là, Square. Et puis, vous manquez pas d'énergie, là, c'est le cas de le dire, parce qu'en face de vous, vous avez des mastodontes énormes, les Apple, les autres, Huawei. Mais comment vous allez les rencontrer, tous ces gens-là ? Comment ils vous ouvrent les portes ? Comment vous arrivez à pénétrer dans ces mastodontes, comme vous dites, de la téléphonie ?
Alors, on les voit sur des salons. Ils font aussi une veille technologique, parce qu'ils voient bien que les charges par inductive actuelles ne sont pas employées par le grand public, ne sont pas utilisées. Et puis, on a un portefeuille important de brevets qu'on a déposé avec France Brevets, notre partenaire, parce qu'on ne peut pas aller voir ces gens-là sans être protégé. Et donc, on va aller voir avec ce portefeuille, avec notre savoir-faire technologique, et on leur apporte une solution qui va répondre à tous leurs problèmes, parce qu'ils rencontrent tous des problèmes sur la charge sans fil inductive aujourd'hui, dont on a parlé tout à l'heure.
Il faut dire, Elisabeth, qu'on est de plus en plus nombreux à avoir un portable la poche. Au moins un portable, d'ailleurs.
Au moins un, voire deux. 94% de la population utilise un téléphone portable. L'ordinateur fait encore un peu de résistance chez les personnes un peu plus âgées, ce qui est tout à fait normal. Ce sont des chiffres de l'Autorité de régulation des télécoms, de l'ARCEP. Ce taux monte à 98% chez les 18-24 ans. Évidemment, la génération ultra connectée, les moins de 39 ans privilégient le smartphone aussi pour surfer sur Internet. Et tout de même, 11% de la population continue de ne pas utiliser du tout Internet. Ils ont un téléphone, mais pas forcément, au moins pour appeler.
Je voudrais vous poser une question. Vous aviez à un moment donné, au tout départ, je crois, inventé un petit truc qu'on collait sur nos téléphones pour pouvoir charger. Ça, vous avez complètement laissé tomber ?
Alors, les personnes à qui on l'a proposé et qui l'avaient commandé continuent à l'utiliser de façon assez courante. Mais on est encore une petite entreprise, une petite équipe, et donc on a dû se concentrer sur notre priorité, qui est de faire un standard. Donc on a arrêté de faire des produits physiques, qui n'est pas notre savoir-faire finalement.
Pour vous concentrer sur la technologie.
Voilà, sur la technologie. Et donc, on vend cette technologie française à des acteurs américains, asiatiques, européens, pour qu'ils l'embarquent en natif dans leurs produits et qu'ils se chargent même de la production derrière.
On reste ensemble et on continue à parler innovation en matière de téléphone portable aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h18. Europe 1.
La digitalisation porte-t-elle vraiment bien son nom ? Vous allez voir que oui, notamment quand vous connaîtrez Up2You. A tout de suite.
Jusqu'à 14h, c'est la France Bouge sur Europe 1. Aujourd'hui, Raphaël Duchemin, vous vous intéressez à un objet qu'on ne quitte pratiquement jamais, le téléphone portable. On parle des nouvelles innovations qui touchent les mobiles avec vos invités, mais aussi sur le répondeur d'Europe 1, le 39-21, 50 centimes la minute.
On parle en permanence de support digital qu'on utilise donc avec nos doigts et pourtant le smartphone qu'on déverrouille, avec lequel on clique sur telle ou telle application, sur telle vidéo, permet de lire, d'écouter, d'écrire, mais pas vraiment d'avoir la sensation de toucher autre chose qu'une surface lisse, celle de notre écran. Bonjour Cédric Chapaz.
Bonjour Raphaël Duchemin.
Merci d'être avec nous. Cette évidence, elle vous a sauté aux yeux, vous qui êtes spécialisé dans l'aptique, c'est-à-dire la science du toucher. Donc, fin 2015, vous décidez de créer votre société Up2You. L'idée, tout simplement, nous permettre de toucher réellement l'image qu'on a à l'écran, ou en tout cas d'en avoir la sensation. C'est bien ça ?
Exactement. Alors, l'idée m'a pas simplement sauté aux yeux, mais m'a sauté aux doigts en quelque
sorte. Oui, j'imagine.
Puisque finalement, on utilise tous un outil de communication qui est extrêmement poussé, qui est extrêmement abouti, qui est le doigt, effectivement. Et ce doigt, il est bardé de capteurs, et il permet de communiquer de façon très intuitive avec notre environnement, et en particulier avec les smartphones. En tout cas, ça devrait, sauf qu'il manque une dimension essentielle, qui est celle du toucher. C'est-à-dire que vous passez votre journée à appuyer sur une plaque en verre, lisse, froide, et sans information. Et de là est né effectivement Up2You. L'idée, c'était justement d'apporter cette dimension qui manque aujourd'hui à nos écrans tactiles. Les smartphones en sont un exemple type. Et de donner une notion de relief et de texture de manière complètement interactive et tangible sur nos écrans tactiles.
Alors, vous nous avez amené un prototype. Il est là avec nous sur Europe1.fr si vous nous suivez. Je vais peut-être faire une démonstration, tout simplement le prendre à la main. Et vous allez nous dire, vous allez commenter ce que je fais.
Oui.
Alors.
Donc là, vous avez sur l'écran du prototype que je vous ai apporté un certain nombre de molettes et de curseurs. Lorsque vous allez déplacer votre doigt sur cette molette, d'habitude, si c'est une molette sur un smartphone, vous ne sentez rien. Sauf que là, vous devez sentir normalement comme un effet cranté en relief qui apparaît sous votre doigt.
Alors, la première, on a vraiment l'impression de faire tourner un bouton. La deuxième, oui. on sent l'écran
comme une molette de coffre-fort avec l'effet cranté.
Et puis si je me déplace, alors attendez, je vais changer de page. Allez. Là, j'ai un poisson.
Oui.
Si je le caresse, je vais sentir les écailles.
Voilà.
Surtout quand je le fais à rebrousse-poil, hein, en quelque sorte.
À rebrousse-écailles,
ouais.
Tout à fait.
Bon, et comme ça, vous avez développé combien de prototypes?
Alors, on travaille par univers et par marché. Donc le smartphone, c'est bien évidemment un marché qui est très fort, parce que derrière la problématique de l'accessibilité, comment j'utilise mon smartphone lorsque je suis dans un environnement qui va être un peu en suréclairé, typiquement avec le soleil, le contraste de l'écran est fortement diminué. C'est la problématique également de comment je dois sélectionner une fonction sur un menu.
C'est impressionnant. J'ai fait circuler la tablette pendant ce temps.
Vous avez bien raison. Et donc, comment je peux proposer à l'utilisateur, de manière complètement interactive, cette sensation tangible qui me permet d'utiliser mon écran de manière beaucoup plus immersive, beaucoup plus intuitive. Voilà, c'est ça l'ambition de notre technologie.
Vous travaillez directement avec les marques de téléphones ou les fabricants d'écrans tactiles aujourd'hui ?
Oui, on fait un peu au quotidien le grand écart, c'est-à-dire que on travaille à la fois avec les fabricants de téléphones portables, les grandes marques de téléphones portables, parce que ce sont quelque part les donneurs d'ordre, c'est eux qui vont dire je veux la technologie Up2You dans mon produit, et en même temps avec les fabricants d'écrans. Parce que c'est eux qui vont être finalement en charge, en responsabilité d'intégrer systématiquement dans l'écran les composants électroniques nécessaires pour avoir la technologie Up2You.
Jean-Christophe, notre coach.
Bon, moi je suis vraiment impressionné, mais je me suis dit en voyant ça, si je puis dire, c'est déjà, par exemple, pour des personnes malvoyantes, est-ce que c'est pas déjà un énorme potentiel justement personnes-là?
Oui, vous avez tout à fait raison. Là, il y a derrière aussi une question d'accessibilité des écrans tactiles. On s'en rend pas compte, nous, personnes voyantes, mais l'émergence des écrans tactiles s'est traduite par effectivement une problématique d'accessibilité non seulement des smartphones, mais finalement de n'importe quel objet quotidien, les points de vente, les distributeurs de billets. L'intérêt de notre technologie, c'est que ça permet à ces personnes-là de se réapproprier une technologie qui est fondamentale, qui est celui des écrans. Pourquoi ? Parce que les écrans permettent d'avoir une information de manière complètement interactive, sauf que la technologie Up2You permet de rendre tangible cette information interactive. Donc, vous avez tout à fait raison. L'accessibilité pour les personnes malvoyantes, et je dirais aussi pour les seniors, parce qu'on n'est pas tous nés avec un smartphone ou une tablette entre les mains, c'est aussi quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur.
D'ici, allez, un an, vous aurez recensé combien de sensations ? Vous avez une idée ?
C'est une très bonne question. Si vous voulez, notre technologie, en soi, elle peut reproduire une palette quasi infinie de sensations, de textures. Ça va de la molette, du curseur, à la texture d'une surface, voire même, on peut reproduire aussi des boutons, c'est-à-dire le bouton de mon clavier, je peux effectivement le reproduire. La problématique, elle est plus derrière combien d'informations le toucher humain est capable de discriminer. Elle est plus de ce côté-là. Donc là, aujourd'hui, si vous voulez, on a plusieurs dizaines de sensations tactiles disponibles. Et ce sur quoi on travaille, c'est surtout de trouver la meilleure adéquation entre l'expérience utilisateur que l'on va délivrer avec la technologie Up2You
et la situation. D'accord ? Si je suis en train d'utiliser mon smartphone en extérieur ou si je suis en train de naviguer sur un site web, je ne vais pas rechercher la même expérience utilisateur. Donc, c'est plus l'adéquation entre ce que je délivre comme sensation et l'usage qui fait sens pour nous.
On est plutôt bon, hein, finalement, dans tout ce qui est innovation autour du téléphone. Et pour le téléphone aussi, d'ailleurs, Elisabeth, vous avez trouvé des acteurs français qui en fabriquent.
Oui, tout à fait. Alors, il y a des acteurs, des acteurs français. Ça reste tout de même un marché vraiment difficile, hein, pour nous, pour les Français. On a eu le français Wiko, hein, W-I-K-O, qui a été racheté par des Chinois. Wiko qui lutte difficilement face aux géants mondiaux. En France, il nous reste l'Aixois Crosscall. Ça a été créé il y a une dizaine d'années. Ce sont des téléphones qui s'adressent tout de même à une niche, hein, celle des smartphones super résistants, étanches, dédiés aux amateurs de sport extrême, mais aussi aux professionnels du BTP. Et voilà, ça reste tout de même un marché compliqué en France.
On reste ensemble et on continue à parler téléphone portable aujourd'hui.
Il est 13h28. Europe 1.
Et on reste ensemble avec la possibilité, vous allez voir, de prendre en charge à votre place votre abonnement téléphone pour en faire baisser le prix. C'est ce que fait justement Mesabo. À tout de suite.
Ce lundi, dans le dossier du jour de La France Bouge, on parle des innovations dans la téléphonie mobile avec vos invités, Raphaël Duchemin, mais avec vous aussi, hein, les auditeurs, n'hésitez pas à nous laisser un message sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
On paie tous nos forfaits de téléphonie mobile chaque mois, sans vraiment savoir d'ailleurs, hein, si ça correspond bien à ce que nous attendons vraiment de notre téléphone. Désormais, un gestionnaire d'abonnement existe pour nous faire faire des économies. Eh oui, c'est possible. Bonjour Paul Brigodeau.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous avez cofondé Mesabo, Mesabo pour mes abonnements, avec votre ami d'enfance. Vous aviez pris l'habitude, en fait, entre vous, de comparer vos offres et vos forfaits d'abonnement, c'est ça ?
C'est exactement ça. Du coup, avec Rémi, mon associé, ça faisait des années, en fait, qu'on switchait tous les ans d'une offre promotionnelle à une autre offre promotionnelle, que ce soit pour nos forfaits mobiles ou nos forfaits box internet. De ce fait, on payait toujours des prix très intéressants sur ces forfaits et on s'est rendu compte un jour, on travaillait au même endroit en fait avec Rémi, et on s'est rendu compte à midi, on parlait de ça en salle de pause, on était dans un moment où on devait tous les deux changer pour une nouvelle offre promotionnelle et on a vu que nos collègues autour étaient un peu interpellés, « Ah, comment vous faites pour payer si peu cher ?» Et du coup, on a discuté avec eux. On s'est rendu compte que sur le midi, il y a peut-être une petite dizaine de personnes qui ont changé de forfait. En fait, on est allé les aider justement à faire cela. Et c'est là que l'idée de Mesabo est née.
Du coup, l'année dernière, vous vous lancez. Vous intégrez Eura Technologies, c'est ça ?
C'est ça, l'incubateur Blanchemaille, qui est situé à Roubaix, mais Blanchemaille qui est une filiale d'Eura Technologies.
Comment ça marche ? Je m'inscris sur votre site, je renseigne mes besoins, je dis voilà, moi j'ai besoin de tant de gigas sur mon abonnement, je prends plutôt des photos, je téléphone beaucoup à l'étranger. Et vous, en fonction des données que je vais vous fournir, vous allez trouver l'abonnement idéal pour moi ?
C'est exactement ça. Aujourd'hui, un utilisateur arrive sur le site Mesabo, il va créer un compte. On va lui demander de renseigner son forfait mobile actuel et son forfait box actuel, s'il en a un. À partir de là, nous, on va aller rechercher les meilleures offres qui correspondent à ses besoins. Aujourd'hui, on lui propose par défaut 3 offres, mais il a la possibilité d'aller en chercher plus, si jamais ces offres ne lui correspondent pas. Du coup, il y a un premier basculement qui se fait sur une offre promotionnelle. Et l'idée, c'est vraiment de répéter cette opération tous les ans. Donc, souvent, les offres promotionnelles vont durer 12 mois. À la fin de ces 12 mois, on va revenir vers l'utilisateur en lui disant « Attention, tu vas recommencer à payer plein pot. Nous, on t'invite à basculer sur une nouvelle offre promotionnelle et on lui propose du coup encore une offre qui correspond à ses besoins. »
Bon, très bien. Vous gérez pour moi la comparaison des prix. Vous me faites faire une affaire, mais c'est vous qui gérez aussi le changement d'abonnement, le passage à un autre opérateur ou pas ?
Le changement d'abonnement, aujourd'hui, faut savoir que si vous conservez votre numéro de téléphone, le changement se fait naturellement. C'est en fait votre nouvel opérateur qui va s'occuper de toutes les démarches de résiliation auprès de votre ancien opérateur. Par contre, pour la partie souscription, aujourd'hui, c'est à l'utilisateur d'aller, en fait, il est redirigé sur le site de l'opérateur pour souscrire. L'idée, c'est vraiment de faciliter au maximum cela et de ne plus faire sortir l'utilisateur du site Mesabo. C'est pour ça que d'ici la fin d'année, on aura un service qui permettra de souscrire directement à la place de l'utilisateur.
Depuis le mois de septembre, vous avez 600 comptes de créés, c'est ça ?
C'est ça, c'est ça. Depuis septembre, on a à peu près 600-700 comptes utilisateurs qui ont été créés. L'idée, c'est d'arriver le plus rapidement aux 1000 comptes et ensuite, on voit comment ça se porte et comment ça va évoluer.
Que dit notre coach, Jean-Christophe Sibéras ?
Ah bah c'est super parce que je pense que tous on est passé par des offres promotionnelles puis tout à coup on s'est retrouvé sans s'en rendre compte à un
en
truc.
Haut de l'échelle, hein.
Voilà et puis on se met toujours un certain temps à s'en rendre compte. Alors moi ma question c'est quand arrive le moment où nos prix vont augmenter sans qu'on s'en rende compte, est-ce que vous alerterez les clients en disant attention c'est le moment de pas passer sur la marge du haut et de voir autre chose?
Oui c'est exactement d'accord. Ça, bah, c'est exactement le principe de mes abos, c'est vraiment le côté suivi des abonnements pour l'utilisateur, donc à la fin de votre offre promotionnelle, en fait, 2-3 semaines avant, on va revenir vers vous en vous proposant en plus les nouvelles offres qui correspondent à vos besoins. Donc, ouais, y a vraiment ce côté, l'utilisateur n'a plus besoin de penser à ses forfaits mobiles, ses forfaits box. C'est mes abos qui va y penser à sa place et qui va s'occuper de trouver son offre et de souscrire à sa place.
Oui, vous faites un réel suivi. Votre objectif de développement, quel est-il? Vous avez déjà une idée de ce que vous pourriez offrir à la population française, peut-être européenne? Vous avez pensé à tout ça?
Aujourd'hui, la grosse priorité, c'est vraiment de développer la partie souscription à place de l'utilisateur pour en fait réduire les charges administratives pour l'utilisateur de mes abos à zéro. Ensuite, on a encore des projets pour créer un espace plus famille qui permettrait d'entrer plusieurs forfaits mobiles, forfaits box. Après, c'est vrai qu'en termes d'évolution dans l'avenir, plutôt que de penser à l'Europe, on pensait plutôt rajouter des autres abonnements. On pense notamment à l'énergie, le gaz, l'électricité.
Devenir un super comparateur de prix, quoi.
C'est exactement ça. Rajouter en fait tous les types d'abonnements qui sont aujourd'hui payés par les utilisateurs.
Et comment est-ce que vous rétribuez?
Aujourd'hui, on est payé par les opérateurs. C'est-à-dire que si un utilisateur souscrit à un forfait, en étant passé par mes abos, c'est l'opérateur qui va nous verser une commission.
Elisabeth, il y a pas mal de start-up françaises aussi qui se sont tournées vers le marché du reconditionnement du portable. Hein,
oui,
ça marche bien, ça.
Alors ça, oui, c'est un marché encore très jeune, mais très très haut potentiel. Donc vous avez plusieurs start-up françaises. Vous avez par exemple Backmarket qui met en relation des reconditionneurs et des clients. Vous avez Remade qui redonne une vie aux smartphones usagés. L'entreprise agit sur toute la chaîne de production, de la récupération des iPhones jusqu'au reconditionnement et jusqu'à la vente en direct ou à des distributeurs. Et vous avez le Recommerce, ça aussi c'est une start-up française qui a bouclé là récemment un tour de table de plus de 50 millions d'euros. Leur activité c'est la sous-traitance des téléphones, ils reconditionnent dans des usines partenaires.
Paul Brigodeau, vous avez le sentiment qu'aujourd'hui ce que vous faites c'est quelque chose de bien particulier, vous êtes tout seul sur ce secteur, on parlait des comparateurs, il y en a d'autres qui existent, est-ce que c'est un marché où il y a encore de la place?
Oui, c'est vrai que sur la partie comparateur, le marché est déjà fort concurrentiel, c'est pour ça justement qu'on a choisi lancer l'innovation, le suivi des forfaits. C'est vrai qu'un comparateur, vous allez faire des économies une fois, on va dire sur 12 mois sur votre première offre promo. Et ensuite, c'est à vous de devoir repenser à retourner sur le comparateur pour rechanger d'offre. Nous, ce qui nous différencie, c'est vraiment le côté où on s'occupe de tout, on gère tout pour l'utilisateur. On lui fait basculer d'offre promotionnelle en offre promotionnelle. On s'occupera de la souscription d'ici la fin d'année. Donc on pense, oui, qu'il y a vraiment encore de la place sur le marché. Et on le voit aussi par rapport aux résultats qu'on a aujourd'hui et aux gens qui sont déjà inscrits.
Allez, on reste ensemble et on parle téléphone portable. Eh oui, ce précieux téléphone, comme le chantait Soprano, ce précieux téléphone qui ne nous quitte pas. On attend évidemment vos appels au 39-21.
Il est 13h37.
Europe 1.
Et aussi sur Twitter, allez-y, écrivez-nous, venez poser vos questions à nos invités. On vous attend pour parler innovation française et téléphonie mobile. A tout de suite.
Europe 1. Vous écoutez Raphaël Duchemin pour La France Bouge sur Europe 1, une France qui bouge avec son téléphone aujourd'hui.
Oui.
Des innovations sont créées tous les jours pour nos mobiles, nos invités nous en parlent. Et vous aussi, d'ailleurs, si vous voulez, on vous attend sur le hashtag Europe 1 ou au 39-21, 50 centimes la minute.
Nous sommes avec Timothée Lequen, cofondateur d'Energy Square, un chargeur sans fil par conduction. Nous sommes avec Cédric Chapaz, cofondateur d'App2You, qui a développé une technologie qui s'intègre dans nos téléphones et nos écrans tactiles en général et qui permet de générer une sensation de toucher sur ces fameux écrans. écrans. Et puis, Paul Brigodeau, cofondateur de Mesabo, gestionnaire d'abonnement pour nous faire des économies sur les forfaits mobiles et Internet. Notre coach aujourd'hui, Jean-Christophe Sibéras, ancien président de l'Association nationale des directeurs des ressources humaines. Et bien sûr, à mes côtés, Elisabeth Assayag. Je crois qu'on a, Justine, une première question sur Twitter.
Sur le hashtag Europe 1, exactement. Marc nous dit, est-ce que vos différentes innovations concernent tous les smartphones du marché ou uniquement les modèles très récents?
Ah, bonne question. Qui veut répondre?
Alors, pour Energy Square, le produit qu'on avait sorti en 2016 était compatible avec tous les smartphones du marché, puisqu'on pouvait adapter n'importe quel smartphone existant avec notre technologie de charge sans fil. Et donc, on pouvait charger tous les smartphones, simplement en les posant sur une surface qui est prévue à cet effet. Et depuis qu'on travaille avec les fabricants, on n'a pas encore de smartphone compatible sur le marché, mais on est en discussion assez avancée avec un certain nombre de fabricants pour des modèles à venir dans les prochains mois.
Donc on pourra quand même peut-être adapter sur un vieux téléphone ou un ancien téléphone ou pas du
tout ? Voilà, certains accessoiristes industriels sont également très intéressés pour produire des accessoires qui permettent de réadapter des anciens smartphones.
Même question peut-être pour vous, Spike ?
Oui. Alors, il va falloir que vos auditeurs soient un tout petit peu patients pour disposer de la technologie et pouvoir caresser les écailles du poisson sur leur téléphone portable. Aujourd'hui, donc, nous, on développe la technologie et notre objectif, c'est de la licencier, la mettre à disposition des fabricants d'écrans. Et là, on est sur des durées de mise sur le marché qui sont de l'ordre de 12 à 18 mois pour que ça soit disponible sur des premiers produits. Ça peut être des smartphones, ça peut être également des équipements électroménagers. Voilà, on est sur cet ordre de grandeur à peu près. Donc bien sûr, notre ambition, c'est que ça soit compatible avec tout type de téléphone portable à terme. Mais il va falloir encore attendre un petit peu pour pouvoir le tester et le toucher.
Vous êtes en pleine montée en puissance. Hein. Vous dites aujourd'hui, on est une dizaine, on sera bientôt une trentaine, c'est ça ?
Alors, vous êtes une trentaine.
Vous étiez une dizaine l'année dernière.
Exactement. On a multiplié par 3 nos effectifs en un an. On va encore continuer notre croissance. On sera certainement plus du double à la fin de l'année 2020. Et pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de demandes dans le domaine de la téléphonie mobile, dans le domaine de l'automobile, dans le domaine de l'industrie. Donc il faut beaucoup de moyens humains et techniques pour pouvoir répondre à toutes ces demandes et pouvoir faire en sorte que cette technologie soit la plus rapidement possible entre les mains des utilisateurs.
Alors on a un appel et à mon avis, c'est à vous que la question s'adresse. Bonjour Catherine.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Nous appelez du 92. Vous êtes où Catherine ?
Je suis à Clamart exactement.
D'accord.
Voilà.
Vous dites, moi je vois pas l'intérêt de ce genre d'application.
Et non, pas trop. Enfin, dire que je suis effrayée, si vous voulez, tous les jours. C'est vrai que je suis impressionnée par cette technologie, même un peu voire dépassée.
Ah, puis je peux vous dire que quand on essaye, ça fait vraiment bizarre. Hein.
J'imagine, mais est-ce que quelque part, toutes ces technologies ne vont pas un peu à l'encontre de l'échange et du rapport de relationnel, à savoir que un enfant ou une personne est-ce que va pas plutôt aller dans l'aquarium, faire des visites, aller vraiment ce qu'on ferait à la réalité, et du coup on va, cette technologie risque de, si vous voulez, d'être je suis très émue, donc c'est pour ça que je suis pas très claire.
J'entends. Mais oui, vous demandez si c'est vraiment utile, si c'est pas plus simple finalement pour aller voir les poissons, toucher un vrai poisson, que de toucher un écran qui
voilà.
Simule un poisson.
Absolument,
vous savez quoi, on va demander à Cédric de vous répondre puisqu'il est avec nous. Cédric, qu'est-ce que vous dites à Catherine ?
Alors, je remercie Catherine pour sa question parce que ça, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Parce que justement, mon ambition au travers de la technologie développée par Up2You, c'est justement de remettre l'humain au cœur de l'innovation. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup aujourd'hui, vous avez certainement dû entendre parler de l'intelligence artificielle. Moi, je crois beaucoup dans l'intelligence sensorielle, justement. Et l'objectif, c'est pas de se substituer au réel, mais c'est de donner envie de voir et de toucher le réel. Et pour ce faire, il faut quand même pouvoir donner, à un moment donné, la possibilité à quelqu'un qui est avec son smartphone ou son écran d'ordinateur de pouvoir commencer à percevoir ce monde réel et aller effectivement visiter un musée, visiter...
Ça ne vient pas remplacer, ça vient compléter.
Non,
ou en tout cas, susciter l'envie.
Absolument. Notre ambition, c'est d'enrichir l'expérience utilisateur, de la rendre plus accessible au quotidien, mais pas de se substituer au monde tangible et réel. Et c'est ça, voilà. Et notre réponse, c'est de pouvoir faciliter l'usage qu'on a des écrans tactiles, parce que maintenant, ils sont au quotidien dans notre journée, et il faut bien amener cette technologie pour y répondre concrètement.
Merci beaucoup Catherine pour votre intervention.
Dites-nous vite alors. Oui, ce que je voulais vous dire, effectivement, ce monsieur parle très bien de ce qu'il, voilà, de sa démarche. Mais quand on voit ce que après les parents ou les gens font de cette technologie, ils n'ont pas du tout la même, si vous voulez, la même démarche que ce qui est proposé au départ. Donc c'est un peu un leurre pour moi. Bon. Dans le bus, dans le métro, on voit bien que les gens, les regards sont.
De voir, puisque pour l'instant ça n'existe pas encore, c'est juste un prototype. Mais en tout cas, merci pour votre appel, Catherine. Merci d'avoir été avec nous au 39. Je voudrais qu'on termine avec vous, Elisabeth. Mm-hmm. Quand on parle téléphone, on parle aussi accessoires.
Mais oui.
Et vous en avez trouvé un biodégradable.
Mais oui, c'est une entreprise française qui vient d'imaginer le premier câble de charge, un chargeur biodégradable. C'est l'entreprise Xupar qui, pour réduire l'usage du plastique, vient de présenter dans une pochette en papier 100% recyclé, ce qui change des câbles que l'on achète dans des conditionnements en plastique. Des embouts capables de recharger tous les appareils. Ils sont tout petits, c'est très pratique et tout est recyclable. C'est Xupar.
Merci à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui pour parler téléphone portable et innovation française, bien sûr, sur Europe 1.
Il est 13h47.
Europe 1.
Restez avec nous, on va découvrir d'ici quelques minutes l'histoire de Bleu Forêt, qui est né en 1994. A tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Et Raphaël Duchemin.
Restez avec nous, la France bouge continue avec Raphaël Duchemin. Tout de suite, on s'intéresse à la marque française Bleu Forêt. C'est l'entreprise qui va bien, merci.
Bonjour Vincent Marie.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de la société de tricotage des Vosges et donc de Bleu Forêt. C'est votre père, hein, je crois, en 1994, qui a décidé de reprendre un site industriel qui, à l'époque, appartenait à Dîmes. Pourquoi l'entreprise devait être délocalisée à cette époque ?
Exactement. En fait, le site de production devait être fermé. Et à cette époque, mon père a estimé qu'il était dommage de perdre tout ce savoir-faire et qu'il était encore possible de trouver une voie pour produire en France. Et donc, a décidé de reprendre ce site de production et autour de créer une entreprise et une marque Bleu Forêt.
Lui, il avait dirigé cette usine de Dîmes ?
Exactement. Il a été pendant pas mal d'années président, directeur général, puis président directeur général de Dîmes, et connaissait donc parfaitement ce site.
Donc l'idée, c'est garder là-bas finalement une activité, une base industrielle, développer un nouveau produit. En même temps, il y a l'émergence du pantalon chez la femme dans les années 80, donc de plus en plus demande des chaussettes et non plus des collants. Et il se dit, on va fabriquer de la chaussette pour femmes françaises.
Exactement. Alors ça paraît un peu anachronique aujourd'hui, mais c'est vraiment l'avènement du pantalon pour la femme. Et à cette époque, beaucoup des chaussettes qui s'adressaient aux femmes étaient en fait des chaussettes d'hommes mises en petite taille. Qu'est-ce que ça veut dire ? Des chaussettes avec des jauges moyennes, donc d'épaisseur moyenne, et des coloris assez courants, assez basiques, du marine, du noir, de l'anthracite. L'idée a été d'investir dans des métiers à tricoter, donc des machines pour tricoter les chaussettes.
Que vous êtes allé chercher au Japon ?
Exactement, à l'époque, c'était les plus grands fabricants de machines de métiers à tricoter, avec énormément d'aiguilles, 220 aiguilles, qui permettait en fait de tricoter des chaussettes fines, puisque c'est ce qui intéressait plus la femme, pour mettre dans des souliers plus fins que les souliers d'hommes, avoir des couleurs, avoir des motifs, pour vraiment qu'elles se sentent concernées.
À l'époque, dans les années 90, c'est vrai que ça se fait peu, hein, vous l'avez dit. Donc vous arrivez sur un marché qu'il faut conquérir.
Exactement. Le point de départ, ça a été de se dire, il est possible de continuer à fabriquer en France. Et l'idée de Bleu Forêt, c'était d'avoir vraiment cette marque qui s'adresse aux femmes, qu'on installe dans les grands magasins, en France et à l'export. Et le fait d'être un peu nouveau sur ce créneau fait qu'on a pu avoir du succès, rentrer dans les grands magasins et intéresser également hors de nos frontières.
Avec en plus du Made in France, parce que votre fille vient de Normandie, vient de la Drôme aussi.
Alors on essaye autant que possible de faire tout. Donc on fabrique tout en France,
tout, oui.
L'intégralité est faite dans les Vosges, dans notre usine. Pour nos approvisionnements, on essaye autant que possible de travailler avec des fournisseurs locaux ou des fournisseurs français. En ce qui concerne les fils, malheureusement on n'a pas toujours des fournisseurs français, on est obligé de passer aussi par beaucoup de fournisseurs italiens qui sont restés excellents dans le textile.
La vraie nouveauté de cette chaussette française, c'est qu'il a l'idée, votre père, de créer une chaussette effectivement plus fine, mais qui ne marque pas le mollet. qui est finalement en coton, mais pas seulement, où il y a un petit peu de polyester. Donc, le mélange des textures fait que, finalement, ça s'adapte bien à la femme.
Notre chaussette vedette, qui a été créée vraiment dès le départ de la marque, dès la première collection, c'est une chaussette qu'on a appelée velouté, tout simplement parce qu'elle est extrêmement douce, extrêmement confortable. Elle est 98% coton, mais 100% coton sur la peau, avec une bonne élasticité et un bord-côte roulé qui ne marque pas le mollet de la femme.
On en a quelques exemplaires avec nous ici sur Europe1.fr. Que dit notre coach de l'histoire Bleu Forêt ?
Alors moi j'ai une question, c'est votre père là qui a eu visiblement cette idée de génie, parce que c'est ça qui a marché. Alors vous êtes le fils, alors qu'est-ce que vous avez apporté de plus que votre père finalement dans l'entreprise Bleu Forêt ?
Bah, ce que j'ai essayé d'apporter...
Ça fait 15 ans que vous y êtes, hein,
alors,
quand même.
Voilà, exactement. Et ça fait 4 ans que j'ai repris la présidence de la société. Ce que j'ai essayé d'impulser comme mouvement, c'était de se dire qu'aujourd'hui, on constate qu'il est de plus en plus difficile de se faire distribuer pour une marque. Quel que soit le canal de distribution. Donc l'idée a été d'aller vers un peu de diversification produit en investissant dans une ligne de production pour faire des cols en polyamide. Vous pouvez en voir un dans les produits... que j'ai apporté, des mi-bas polyamides, donc ça c'était le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est d'essayer d'aller vers un peu de distribution directe en développant d'un côté les ventes en ligne, le e-commerce, et de l'autre côté, en montant un petit réseau de boutiques. Aujourd'hui, nous avons 7 boutiques ouvertes, on en aura 9 ouvertes à la fin du mois de novembre, et je vise d'en avoir 12 pour la fin du mois de juin.
Oui, vous avez remis au goût du jour les fameux banilons hein, en 2017, c'est ça ?
Exactement.
Avec les couleurs et de gros investissements, notamment dans des métiers à tisser spéciaux. 300 000 collants vendus tout de suite là, dans la grande distribution dès le début.
Exactement.
C'est pour ça qu'on vous a invité aujourd'hui, parce que vous êtes l'entreprise qui va bien. Bleu Forêt, merci d'être venu nous raconter une partie de son histoire aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h57.